Bonjour à tous et bienvenue dans Vie. Pour ce premier épisode, je n'avais pas vraiment envie d'un sujet trop léger, allez savoir pourquoi, mais je ne voulais pas non plus d'un sujet trop plombant. 2020 aura été bien assez dur comme ça. Alors, comme ce podcast parle avant tout de vous, j'ai posté un sondage sur Instagram et je n'ai pas eu longtemps à attendre. Un sujet m'a tout de suite happé. Est-ce que réussir rend heureux ? Ça a été tout de suite évident. Parler d'un sujet qui nous concerne tous, ou presque finalement. Qu'est-ce que réussir sa vie ? Voici donc une petite réflexion sur la question que j'ai écrite avec mon amie Caroline. Au cours de notre existence, on entendra tous au moins une fois l'expression « réussir sa vie ». Mais c'est quoi réussir sa vie ? Comment sait-on lorsqu'on l'a réussi ? Ça s'exprime comment ? Ça arrive pourquoi ? Est-ce que ça se quantifie ? Dans ce cas-là, par quelle mesure ? Par un compte en banque bien rempli ? Avoir à ses côtés l'homme ou la femme de sa vie ? La famille parfaite ? Les enfants ? Le travail peut-être ? Est-ce que c'est avoir tout à la fois ? Ou juste ce à quoi on tient vraiment ? Si je réfléchis bien, pour moi le bonheur passe surtout par le confort matériel et professionnel. Parce que bon, pour ce qui est du sentimental, j'en ai une définition un peu particulière pour ceux qui me connaissent. Ensuite, on peut aussi se poser la question de l'ambition. Ce par quoi tout arrive. Mais là encore, c'est quoi l'ambition ? Une affaire d'éducation ? Quelque chose que l'on a en nous ? Ça appartient à l'inné ou ça se travaille ? Et puis, l'ambition, c'est vague. On peut avoir pour but d'être heureux au milieu des chefs dans le Larzac ou être le roi du CAC 40 et parfois, il suffit d'un événement pour tout remettre en question et trouver la vraie recette du bonheur. Pour en parler tout à l'heure, je serai avec Mélanie qui est l'exemple même de cette course à la réussite et qui s'est rendu compte que malgré tout ce qu'elle avait, était sûrement passée à côté de ce qui est pour elle la définition du vrai bonheur. Quand on a des parents qui ne supportent que la perfection, les choses bien droites, veulent des enfants qui excellent, premiers en tout, à l'école, en sport, etc. C'est assez difficile, je pense, de se défaire de cette image d'excellence et de compétition. Assez difficile d'oser se dire un jour que ce tout ne nous comble pas, et puis tout envoyer valser. Alors attention, je parle de parents qui ne seront jamais satisfaits, de ceux pour qui un 17 sur 20 est toujours matière à améliorer. Ce podcast n'a évidemment pas pour but de juger ou de condamner, mais de se poser la question, de vous poser la question. C'est quoi la réussite ? Pousser son enfant en permanence, est-ce que, finalement, tout ça n'est pas juste une affaire d'ego ? Se servir de sa progéniture pour rattraper ses regrets ? Un moment presque galvanisant, une victoire sur le temps, on remonte le fil pour vivre son succès par procuration. Mais est-ce que dans ce genre de situation, on ne finit pas par relever les yeux ? Se demander si son enfant est réellement heureux ? A contrario, l'ambition peut aussi naître après une enfance qui ne se pensait pas assez regardée, encouragée ou choyée. Et puis, il y a aussi l'absence de motivation, la résignation, l'abandon. Mais n'offrons pas tous les débats d'un coup. La société d'aujourd'hui nous pousse chaque jour à nous battre pour avoir le package idéal. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à jouer des coudes pour écraser les autres. On veut que tout soit parfait, que tout aille vite, montrer et démontrer sa réussite, comme pour la ressentir en effet miroir. Mais que se passe-t-il lorsque l'on dégringole ? Que la réussite vous échappe ou qu'elle connaît sur la route l'échec ? Doute, déprime, tristesse, certains perdent pied et parfois la désagréable sensation d'être passé à côté de leur vie. Attention, je ne suis pas en train de tenir un discours utopiste de dire que la vie c'est fait pour être vécue d'amour et d'eau fraîche. Cela va de soi, le confort est utile, mais comme tout dans cette vie, n'est-il pas fait de juste milieu ? Au fond, je pense que ce qui nous fait perdre pied parfois, c'est le temps. Ou plutôt, le fait de ne pas assez prendre le temps. Si on prenait simplement le temps de reconnaître et de savourer les petits bonheurs simples. Parce que c'est ça aussi le bonheur. Une bière avec les copains sans vouloir montrer qui on est, sans étaler ce que l'on croit être. Prendre le temps de respirer, d'observer, de rire, d'arrêter de râler. Prenons un exemple concret, tiens. Est-ce que certains parmi vous savent ce que c'est de s'ennuyer ? Le bonheur de s'ennuyer. Le confinement m'a beaucoup appris là-dessus, à apprendre à m'ennuyer. Contrairement à ce qu'on m'a toujours répété, l'ennui n'est pas mortel. Essayez-vous aussi. Ne faites rien et n'ayez rien à faire. Soyez capable de vous dire « Je me fais chier, dis donc, mais ça me va, je me sens bien. » Alors je sais, j'en entends déjà certains me dire « Mais tu penses à ceux qui vivent dans la misère et qui ne sont pas concernés par ça, ou ceux pour qui l'ennui rythme déjà leur vie ?» J'y pense, oui. Et ces sujets-là, feront aussi l'objet d'un podcast. Mais l'on ne peut pas toujours tout opposer. S'interdire de parler de réussite parce que certains connaissent l'échec. Tous les sujets sont importants et peuvent être abordés tant qu'on le fait dans le respect avec des propos mesurés. Ici, il est question de parler de la réussite poussée à son paroxysme. Vouloir que tout soit toujours parfait, la peur de l'imprévu, du petit défaut, aimer que tout soit lisse et tranquille jusqu'au jour où on se rend compte que l'on est passé à côté de l'essentiel. Et pour approfondir tout ça, je suis avec Mélanie pour qui la réussite a été un moteur permanent jusqu'au jour où, en regardant tout ce qu'elle avait réussi, a pris conscience de toutes les choses à côté desquelles elle était passée. Mélanie, bonjour.
Bonjour Camille.
Ça va ?
Bien et toi ?
Voilà, ça va très bien. N'hésite pas à te rapprocher un peu du micro. T'as pu écouter la petite introduction. Je ne sais pas si t'as senti des similitudes par rapport à toi et ta vie dont on va parler.
Si, tout à fait. Ouais.
Donc Mélanie, t'as 28 ans, tu vis à Paris, tu es divorcée, tu as un petit enfant. Donc, tu es quelqu'un qui a couru beaucoup après la réussite, mais on va revenir peut-être un peu sur l'enfance. Est-ce que toi, l'éducation, ça a été le premier facteur de ce besoin de réussite ?
Ah, clairement, clairement, parce qu'en fait, j'ai grandi donc pas à la base avec une mère qui était dévouée à son travail et qui a commencé tout en bas de l'échelle et qui a réussi à au fil de sa carrière et de son ambition et on va dire même enfin de toute la personne qu'elle a pu investir dans son travail, en fait, elle a réussi à gravir les échelons avec un niveau scolaire, on va dire, elle avait un BTS et elle a réussi à finir directrice régionale d'une filiale d'un grand groupe. Et un père qui a fait pas mal d'études, mais qui au final était quelqu'un de un petit peu marginal, qui n'aime pas trop le cadre, la société et ce qu'on nous impose. Et donc j'ai grandi avec ces parents assez, on va dire, paradoxaux dans leur vision de la vie, des choses, des priorités, et du coup de la réussite. Et avec une certaine exigence, en fait, par rapport à ma réussite scolaire. Il fallait que j'aie des bonnes notes. Alors c'était dans un but, on va dire, très positif pour moi. C'était me donner le sens du travail en me disant, ben voilà, si tu as des bonnes notes, c'est pour toi, c'est pas pour nous, mais c'est pour réussir plus tard, pour que tu aies un bon travail qui paye bien et que tu n'aies pas à avoir peur de demain. Donc c'est vrai que j'ai toujours grandi un peu dans ce cadre-là. Et ensuite, quand mes parents sont séparés, quand j'avais 9 ans, j'ai grandi, en fait, j'ai vécu mon adolescence avec ma mère. Et donc, qui, à ce moment-là, bossait énormément et donc était assez exigeante sur mes notes. J'avais pas trop le droit de sortir. Elle était assez exigeante parce qu'elle voulait pas que je fasse des conneries. Elle voulait que je reste dans le droit chemin et pour mon bien, pour ma carrière, pour réussir. Et donc, c'est vrai que ça, je pense que ça a clairement, clairement influencé ma vision de la réussite à la base.
Est-ce que tes parents essayaient de vivre à travers toi par procuration ce qu'ils n'avaient pas réussi ?
Alors, pour ma mère, non, vraiment, je ne pense pas. C'était plus, elle voulait m'éviter les galères qu'elle avait pu avoir. Et donc, je pense, en voulant éviter le schéma peut-être qu'elle avait vécu, peut-être qu'elle est allée un peu à l'extrême opposé, c'est-à-dire être derrière moi pour que... Déjà, d'une, pour pas que je fasse de conneries, et pour que je bosse et que je réussisse. Parce que elle a eu l'impression que voilà, la vie n'a pas été facile. C'est pas qu'une impression, hein, ça n'a pas été évident pour elle. Donc elle a vraiment, je pense, fait tout ça pour vraiment me pousser et pour éviter que je vive les mêmes souffrances qu'elle.
Petite, t'étais déjà sur des métiers très pragmatiques, journaliste, psychologue, hein, tu vois, comme... On en a parlé, moi je rêvais d'être poète, écrivain, peintre. Est-ce que c'était déjà, petite, un besoin de réussite, ça ?
En fait, depuis petite, j'ai toujours l'impression de comprendre facilement les gens, d'arriver à cerner très rapidement les gens. Et donc, j'étais attirée par le côté psychologie. Mais où au final, je trouve que la psychologie, finalement, fait rentrer dans des cases. On identifie certaines de tes réactions et on les justifie, en fait, par finalement certains critères en disant ben ça vient de telle blessure, ça vient de ça. Et donc ça avait aussi ce côté très pragmatique où j'avais l'impression qu'on pouvait du coup caser des gens. Et c'est exactement aujourd'hui, je trouve, ce que fait la société avec nous, c'est nous mettre dans des cases. Et donc au final, à partir du moment où tu coches les cases, et ben c'est bon, t'as ta checklist, ben c'est bon, t'as réussi, quoi. Et le journalisme, c'était mon côté, j'aimais beaucoup écrire. J'ai toujours aimé écrire, communiquer avec les gens. Et donc, effectivement, j'avais envie de débattre sur des sujets. J'avais vraiment envie de faire du journalisme d'investigation. C'était plutôt... je pense que là, c'est justement, je n'ai pas fait ces choix-là de métier parce que j'avais l'impression que c'est peut-être pas ça qui me mènerait à la réussite, justement. Parce que quand j'avais ce projet-là, éventuellement de faire des études en psycho ou journalisme, bah, mes parents m'avaient dit « fais attention » parce que c'est pas des métiers forcément où il y a beaucoup de place, il y en a déjà beaucoup sur le marché, faire sa place c'est compliqué. Et du coup, je pense que c'est pour ça, au contraire, que j'ai pas pris ces voies-là, parce que j'avais l'impression que ce serait difficile de réussir dedans.
Donc, est-ce qu'on peut dire ce que t'as fait en sortant de ton parcours scolaire très studieux ?
Oui, bah, du coup, je suis rentrée dans un lycée militaire à 16 ans. Et ensuite, je me suis engagée à faire un contrat de sous-officier donc dans l'armée de l'air derrière. Et donc, c'était un métier un petit peu particulier dont on ne peut pas trop parler.
Oui, mais t'étais dans le renseignement, ouais, ça, on peut le dire.
C'est voilà. Ça, voilà. Et donc, mais du coup, ça mêlait quand même ce côté... écriture, sens de l'analyse, à la fois des gens et des situations. Donc je retrouvais finalement ce qui m'attirait dans le journalisme et la psychologie. Et du coup, voilà, j'ai pris cette voie-là et j'ai intégré l'armée dès mes 16 ans.
Et donc y a eu, tu intègres l'armée à tes 16 ans, il passe toute la période des études de l'armée, puis il y a cette mission de 6 mois et demi où tu es parti en Afghanistan, oui. Qui t'a marqué. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus et pourquoi ça t'a autant marqué, cette mission ?
Alors, déjà, j'avais 20 ans. J'ai fêté mes 21 ans là-bas. Donc, c'est quand même compliqué du jour au lendemain de partir toute seule en tant que jeune femme et petit sergent française au milieu d'une base étrangère où, du coup, ben, moi, j'avais mon petit niveau scolaire d'anglais. Hein, donc... où je me débrouillais et puis d'un seul coup je me suis retrouvée au milieu de gens qui venaient de plein de pays différents avec des cultures différentes, avec une vision de la guerre différente, le rôle que chaque pays avait à jouer aussi différente et en fait j'occupais un poste où j'étais toute seule dessus, donc j'avais certes un chef qui validait mon travail, mais j'étais responsable de mon travail. Donc quand t'as 20 ans, en fait t'es responsable potentiellement d'opérations qui vont se dérouler derrière. Bah déjà, c'est assez perturbant dans le sens où, à 20 ans, prendre ce genre de décision, c'est quand même pas anodin.
Et t'avais déjà ce sentiment de te dire que t'avais réussi en faisant ça ?
Et c'est quand je suis sortie de l'armée, où là, d'un seul coup, il a fallu que je me retrouve une place dans le civil, et où là, je me disais, ok, maintenant, on parle carrière. Parce que finalement, dans l'armée, c'est un petit peu à part. Tes grades, ils arrivent au fil de l'eau, t'as tes notations, donc t'essaies de bien faire ton boulot. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu tracé, où t'es un petit peu assisté et protégé. Et c'est le jour où je suis sortie de l'armée, 6 ans et demi plus tard, que d'un seul coup, je me suis dit, oula, mais je suis qui, je vais où et où je me place, en fait, dans la société maintenant.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un événement, on va revenir sur cette sortie de l'armée et sur... C'est ce moment où justement tu as voulu que tout soit carré, lisse, parfait. Est-ce qu'il y a un événement pendant ces 6 mois et demi en Afghanistan qui t'a marqué plus qu'un autre, quelque chose qui a peut-être changé ta vie, ta vision de la vie, donné encore plus justement cette envie de réussir ?
Oui, y a eu le fait déjà qu'à plusieurs reprises, j'ai failli y passer. J'étais vraiment pas très loin. Donc, d'un coup, le sens de la vie et de la mort prend complètement une autre tournure. Et puis aussi, je me suis sentie responsable, en fait, de la mort de 4 personnes, puisqu'il y a eu une roquette qui est tombée, en fait, sur la base. Et que nous aurions pu avoir l'information avant, et qu'au final, ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai eu une certaine culpabilité et responsabilité là-dessus. Et donc, quand t'as 20 ans, 21 ans, tu te sens responsable de la mort de personnes, avec personne qui va te taper sur l'épaule et dire « Allez, c'est pas grave, t'inquiète pas, non, tu n'es pas responsable, parce qu'au final, t'es un soldat, et est-ce que t'as bien fait ton taf ?» Personne n'est là pour... au contraire, on va pas trop te rassurer, plutôt te dire « Bah ouais, il fallait assurer, en fait, et là, potentiellement, ouais, il y a eu un loupé. » Donc, à la fois se sentir responsable de la mort de personne, et en même temps frôler la mort, Et ben, j'ai vu les choses complètement différemment et mes priorités n'étaient plus du tout les mêmes.
Alors c'était quoi justement? Donc tu sors de l'armée, c'est quoi ces nouvelles priorités? Qu'est-ce qui déclenche ces besoins?
Je pense que ce qui m'a vraiment quand je suis sortie, parce que je suis revenue avec un stress post-traumatique. Donc déjà ça, il a fallu l'assumer, parce que c'est pas évident. On est en 2013, on commence à parler de stress post-traumatique, et est-ce que ce soit pris en charge par l'armée et reconnu. Mais ça aussi au niveau de la société, dans l'armée, c'était pris un peu comme une faiblesse. Et pourtant, moi aussi j'ai fait une mission, et moi j'ai pas un stress post-traumatique, comme si en fait c'était... Toi, t'es pas passé entre les gouttes, t'as pas réussi, t'es faible, quoi. Et donc, j'ai eu ce moment où j'ai voulu prouver que non, j'étais pas fragile et que non, je pouvais faire ma place et que je pouvais réussir. Et donc là, j'ai eu cette phase en quittant où je suis restée quand même dans le même milieu de la défense et de la sécurité. Et donc là, j'ai voulu prouver que ouais, une nénette de 25 ans, et ben, elle avait la niaque et qu'elle pouvait y arriver, qu'elle pouvait manager des mecs et qu'elle pouvait travailler d'arrache-pied et peu importe l'heure, peu importe ce qui se passe, c'était pas un problème, j'avais les épaules pour. J'avais l'impression que c'était jamais assez. Au bout de 6 mois, même si j'arrivais à avoir une promotion au bout d'un an, un an et demi, ben, il me fallait encore plus de gens à gérer, plus de responsabilités, encore plus de boulot, plus de stress, parce que j'ai l'impression de me réaliser en fait à travers ça, me prouver que j'étais capable de. Et puis au final, là au niveau professionnel, je m'en sors bien, je trouve un nouveau job, encore mieux payé, avec d'autres responsabilités. Franchement, il cochait toutes les cases de ce que j'avais toujours...
Toujours le mieux, le plus, le mieux.
Voilà,
le plus.
C'est ça, le mieux, le plus. Sauf que là, je venais d'avoir mon fils, qui va bientôt avoir 2 ans. Et donc, à l'époque, il avait 6 mois, quand j'ai pris ce nouveau job, avec potentiellement des déplacements. Et mon mari, à l'époque, venait d'avoir une promotion avec énormément de déplacements. Et donc, tout allait bien pour nous, hein, puisqu'on avait le bébé en bonne santé, on avait notre appart agréable, donc tous les deux une belle carrière.
C'est-à-dire que pour vous, c'était votre réussite, vous commenciez vraiment à vous dire que vous l'avez en ayant le couple parfait, l'enfant tout beau, tout sympa, tout mignon, ouais. le boulot idéal. Donc on est, la panoplie,
voilà,
le package,
on avait le package de
ce que
rêve.
Tu pensais être la réussite.
C'est ça.
D'accord.
Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que donc on était locataire. Et tout le monde autour de nous, hein, quand tu arrives à la trentaine, tout le monde te dit, bon alors t'achètes. Et là, quand tu es sur Paris, qu'il faut que tu vendes un rein pour, pour avoir 40 mètres carrés. Donc on était devenus banlieusards dans le 9-2. Ça y est, on était partis à Courbevoie. Et en fait, on se disait, mais là, il faut acheter. Voilà, c'est ce principe de il faut. Et maintenant il faut qu'on achète, hein. On est marié, on a notre enfant, notre boulot ça va, on gagne bien nos vies, il faut qu'on achète. Et dès qu'on se mettait dans la recherche d'un appartement, on angoissait tous les deux. Ça nous angoissait profondément de se dire, oh, mais t'imagines, on va s'endetter sur 25-30 ans, et puis nous ça nous angoisse de rester et puis dans un appart, et puis pareil en fait ça nous plaît pas vraiment, et puis en fait, tu vois, on avait des espèces de montées d'angoisse et de panique en se disant, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Et puis au final, on a eu cette discussion il y a maintenant un an, de se dire, mais est-ce que toi, t'es vraiment heureux? Je sais pas. Et toi? Non, je crois pas. Donc, c'est quand même... là, tu te prends une, je dirais une espèce de foudre, quoi. D'un seul coup, tu te dis, mais de quoi? Enfin, pourquoi on n'est pas heureux? C'est pas normal. Puisque finalement, on avait rempli toutes les cases. Et donc là, on a pris la décision de se séparer, de divorcer, malgré qu'on ait notre fils et que ça se passait bien entre nous. On n'avait rien à se reprocher de grave, tu vois, pas d'infidélité ou de choses comme ça. C'est juste que d'un seul coup, on s'est mis à se parler sans filtre et à se dire, mais toi, t'es vraiment heureux? Je sais pas, en fait. Et quand tu dis, je sais pas, c'est que non, c'est que t'es pas heureux. Sinon, tu dirais évidemment, tu te poserais même pas la question. Et puis là, nos proches n'ont pas compris, parce que... Pourquoi vous vous séparez?
Tout va bien.
Tout va bien, voilà. Et ce qui a été surprenant, c'est d'entendre tout mon entourage, où les gens, tu sais, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui regardent toutes tes stories, et qui ont l'impression de te connaître par cœur, en tout cas ce que tu veux bien montrer, qui disent, mais vous étiez le couple idéal.
Oui, je vois.
Tu vois? Et en fait, ça a été très dur quand j'ai annoncé, parce que j'avais pas envie de me prendre dans la tronche, Mais je comprends pas, t'avais tout pour être heureuse, genre, tu fais ton caprice, quoi. C'est ça qui...
Pour les gens, c'est un caprice de sacrifier tout ça, c'est un caprice.
Pour certains, je pense. En fait, je pense que quand on a annoncé ça, ça a renvoyé aux gens, si tu veux, leur crainte. Tu vois, justement, leur propre image de la réussite, leur propre image du couple parfait, de la famille parfaite. Et du coup, les gens sont en réaction. Ils sont pas dans la compassion, sur le coup, ils sont surtout dans la réaction. Parce que là, tu les mets face à la question. Est-ce que moi, je suis heureux, en fait? Et c'est vraiment ça. Et quand on en discutait avec mon ex-mari ensemble, je dis, mais alors, quand tu l'as annoncé à machin, comment il l'a pris? Bah, franchement, ouais, j'ai vu qu'il s'est posé la question et qu'en fait, il avait pas l'air si heureux que ça, quoi. Et c'est vrai que, au final, après, on s'est chacun mis dans notre bulle par rapport à l'entourage, disant, écoute, c'est notre décision. Et au final, nous, on se sent plus heureux comme ça, en vivant chacun de notre côté. On a beaucoup de tendresse l'un pour l'autre, parce qu'on a passé 8 ans ensemble et qu'on n'a rien à se reprocher, qu'on veut le bonheur de notre fils. Mais d'un point de vue épanouissement personnel, amoureux, affectif, eh ben non, ça ne nous convenait plus, donc on a pris cette décision. Et les gens tout de suite te disent « Oui, mais votre fils... » Et c'est là, en fait, que j'ai envie de dire aux gens, mais est-ce que vous croyez que les enfants sont plus heureux dans une famille, ou certes, encore unie, mais qui se déchire? Ben, nous, on a préféré prendre cette décision avant d'en arriver là.
D'accord. Et la reconnaissance des autres, justement, quand on parle des autres, ça a toujours été... est-ce que ça a longtemps été important pour toi?
Totalement. Totalement. Je pense que j'avais un grand besoin de reconnaissance et de validation. Un grand besoin de validation des autres. J'avais besoin de... À chaque fois que je prenais une décision, il fallait que j'aie le tampon de ma mère, de mes meilleurs amis et de mon mec, quoi. C'était vraiment...
Donc la réussite passait aussi par le...
Exactement.
Par la reconnaissance des autres.
Totalement. Totalement. Parce qu'au final, tu avais une image de toi à travers le regard des autres, la reconnaissance des autres. On disait, bah, c'est bien, t'es une bonne élève, bah, c'est bien, t'es une enfant adorable, bah, c'est bien, t'es une bonne salariée, bah, c'est bien, t'es une bonne femme pour ton mari, t'es une bonne mère pour ton fils. Mais en fait, moi, qu'est-ce que je pensais de moi concrètement, en fait? C'est ça qui a ressurgi ces derniers mois, où je me suis dit, mais à quel moment tu t'es fait confiance et tu as cru en toi? Jamais. Jusqu'à maintenant, en fait. Juste une fois que j'avais ma promotion, c'était ma reconnaissance. Donc ça me validait.
Alors aujourd'hui, c'est quoi ta vision de tes rêves, de ta réussite, tes projets pour être heureuse?
Eh bien, déjà, c'est que maintenant, on va dire que j'ai pris conscience que je me suffisais à moi-même. C'est-à-dire que justement, je cherche pas à ce que les autres me complètent ou me valident. J'ai pris confiance en moi, et ce qui fait qu'au final, ça te donne une force incroyable, parce que les autres peuvent penser ce qu'ils veulent de toi, ça ne t'atteint plus. Donc, du coup, si le regard des autres ne t'atteint plus, bah, t'as plus peur de l'échec, parce que pour toi, en fait, il n'y a plus d'échec. L'échec, tu le vois à travers le regard des autres, c'est-à-dire, oh, regarde, elle avait tout pour être heureuse, bah, son mariage s'est terminé, c'est un échec. Mais non. En fait, pour moi, les relations, c'est des expériences. Il y en a qui durent, il y en a qui ne durent pas. Il y a des gens qui sont de passage dans ta vie, il y a des gens qui resteront toute ta vie à tes côtés. Tout comme le boulot, un boulot, c'est qu'une étape dans ta vie. Et au final, quand tu demandes aux gens, mais tu devrais toute ta vie faire le même boulot, être avec la même personne et vivre la même chose tous les jours, enfin, je pense qu'il y a très peu de gens qui te diraient oui. Alors, tu as des gens qui vont dire, bah si, moi, je veux la vie. Mais tant mieux, il y a des gens qui sont faits pour ça. Moi, je sais que je ne suis pas faite pour ça et que maintenant, j'ai besoin d'avoir ma liberté. Ma liberté de travailler comme je veux, ma liberté de penser ce que je veux, ma liberté de m'exprimer, toujours dans le respect des autres. Hein, je ne juge pas, même si les avis des autres sont différents, je ne les juge pas. Chacun pense ce qu'il veut. La liberté d'élever mon enfant comme je le veux et d'aimer qui je veux comme je le veux. C'est-à-dire que je n'attends plus rien des autres et j'estime que personne n'a rien à attendre de moi, en fait.
Donc en fait, la vie que tu avais, les envies que tu avais... c'était surtout une vitrine.
Exactement. C'était les Galeries Lafayette à Noël, tu vois.
La vie vitrine. Oh, il y en a tellement. Je ne citerai personne, mais il y en a parmi vous. aujourd'hui, je le dis, aujourd'hui, tu as décidé de quitter ces métiers un peu plus pragmatiques, un peu plus carrés, type l'armée, le renseignement, etc., tout ce que tu faisais jusqu'à maintenant, pour te lancer dans l'hypnothérapie.
Ouais.
Tu te casses de Paris d'ici quelques jours pour partir vivre dans le sud, pour vivre une autre vie.
Ouais.
Et donc, y a un besoin, comme tu m'en as parlé, de penser un peu plus aux autres, sans pour autant... En fait, c'est là le paradoxe. Est-ce que, du coup, penser plus aux autres, est-ce que c'est faire attention aux autres, à leur façon de penser, ou c'est juste faire attention à qui ils sont et comment ils sont, et comment ils vont ?
En fait, vraiment, je prends à la fois ce métier et ce chemin que je prends. Pour moi, c'est donner les outils aux gens pour s'accomplir. Parce que justement, pour qu'ils arrêtent de vivre comme une vitrine, c'est comprendre certaines de leurs réactions, leurs angoisses, leurs peurs, pourquoi ils ressentent ça, pourquoi du coup ils agissent de cette manière, pour que derrière, en fait, on déprogramme ces espèces de schémas répétitifs que les gens font, ou cette course effrénée où ils s'épuisent à vouloir des choses, où ils sont jamais satisfaits, où finalement ils sont jamais heureux, pour les ramener un petit peu à l'essentiel et dire « Mais toi, en fait, qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu n'es pas bien, c'est normal. » Et on a cette société qui nous culpabilise de ne pas être bien. On dit « Mais regarde tout ce que tu as, de quoi tu te plains ? » Et en plus, tu as 36 000 bouquins sur comment être heureux au boulot, comment tu manges, comment tu élèves ton gosse, comment tu te maries, comment tu t'habilles. Enfin, tu vois, et du coup, les gens culpabilisent en disant bah, « Justement, j'ai tout et je ne suis pas heureux. Bon, je n'ai pas à me plaindre quand même. » Mais en fait, si, parce qu'il y a plein de gens qui oublient que, ouais, bah, ils en ont chié aussi durant leur enfance, ils en ont chié durant leur adolescence, ou ils ont pu avoir un couple qui était compliqué avec une personne, parfois une relation toxique. En fait, il faut admettre que, ouais, t'as le droit de pas être heureux. C'est pas grave, c'est pas une tare. Et donc, ce métier-là, c'est-à-dire que maintenant que j'ai fait mon cheminement, que je sais qui je suis, ce que je veux et ce que je ne veux plus, et que j'ai l'impression, j'aurai toujours du travail à faire sur moi, et clairement, je pense qu'en aidant les autres, je vais aussi m'aider, hein, il faut l'avouer. Mais en étant maintenant beaucoup plus sereine et équilibrée, bah, je me dis que je vais pouvoir donner les outils aux gens pour qu'eux-mêmes guérissent de leurs blessures et évoluent pour être bien avec eux-mêmes et ne plus attendre autant des autres. C'est ça qui rend les gens malheureux. Parce qu'ils disent, bah oui, mais quand ils sont en couple, ils attendent que l'autre les complète, les rende heureux. Mais en fait, ton bonheur, il n'est pas tributaire des autres, il est tributaire uniquement de ta propre personne.
Tu devrais donner des cours à toutes les Instagrammeuses et Instagrammeurs qui essaient de nous faire croire qu'ils ont des vies parfaites. Je pense que tout le monde sait de quel genre d'Instagrammeuse je parle, où tout est beau, tout est rose. Enfin, c'est très énervant. Dans l'introduction, je parlais du temps. Est-ce que justement, le fait d'être heureux, ça passe pas aussi par le fait de prendre le temps ? Est-ce qu'aujourd'hui, on va pas un peu vite à tout vouloir tout de suite, pour tout montrer tout de suite ?
Ouais, c'est justement, c'est la course à la réussite. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, je viens de me souvenir que j'avais un jeu de société quand j'étais gosse que mes parents m'avaient donné qui s'appelait La course à la réussite. Et en fait, il fallait gagner max de thunes et avoir ta belle voiture, ta belle maison et ton boulot.
Tu vois, c'était destin.
C'était destin, mais l'ancien truc s'appelait La course à la réussite et c'est devenu destin.
Okay.
Et comme quoi, tu vois, on était formaté depuis le plus jeune âge. Si, totalement. Il y a peu de temps, là, au moment où tout s'est effondré. Plusieurs personnes autour de moi, dont mes parents, m'ont dit « Mélanie, t'es impatiente. Tu prends même pas le temps de contempler déjà ce que tu fais, ce que t'as déjà fait. Tu veux toujours plus, 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 plus. » Et j'avais pas cette impression. Je me disais « N'importe quoi. Regarde, je suis patiente. Hein, j'ai attendu 3 mois pour tel truc. » Et en fait, j'ai vraiment pris conscience que ouais, non, je prenais pas le temps. Je prenais pas le temps de vivre. Je prenais pas le temps de respirer, de contempler ma vie. Et depuis que j'ai fait tout ce travail sur moi, ben le temps est même plus une notion que je prends en compte. Alors que, tu vois, il y a 6 mois, c'était impossible pour moi de te dire ça. Aujourd'hui, si tu me dis, ben, ton projet, là, tu vas le lancer et il marchera que dans 2 ans, ouais, OK. Avant, je t'aurais dit, ah non, mais c'est mort, il faut que dans 3 mois, j'ai tous mes patients et que tout se passe bien. Et que là, en fait, je pense qu'aussi, il y a le confinement qui a fait beaucoup, puisque j'étais confinée ben, toute seule avec mon fils 1 semaine sur 2. Avec en plus du chômage partiel, donc ben, le temps de me faire chier hein, et de poser plein de questions existentielles. Et c'est là, comme tu l'avais dit dans l'intro, prenez le temps de vous ennuyer. C'est la première fois de ma vie que j'ai pris le temps de m'ennuyer, de rien faire ou de lire. Parce que même quand je lisais, il fallait que je lise absolument des choses qui allaient m'apprendre des choses. Je prenais plus le temps de me divertir. Et, ou alors, ouais, si, tu te mets devant Netflix, mais en fait, ton cerveau, tu te divertis pas vraiment. On te met des images, et c'est presque de la boulimie, tu sais. T'as l'impression qu'il te faut toujours des informations, toujours une activité cérébrale. Et là, d'un seul coup, je me suis rendu compte que, ben non. Et donc, ça m'a permis de faire le bilan. Et puis là, bah, du coup, j'ai quitté mon boulot. Et je prends le temps de vivre aussi. J'ai pris le temps d'organiser ma reconversion, de faire ma formation, de regarder où j'allais vivre, d'organiser ma nouvelle vie. Et au final, je pense que le temps, effectivement, prendre le temps, c'est la clé. En tout cas, je dirais, de son équilibre psychique. Et donc, je pense, de son épanouissement et de son bonheur.
Il y a une phrase que tu m'as dit en off, qui t'a marqué dans l'armée. C'est laquelle ?
Mélanie, l'armée n'est pas faite pour toi, parce que tu réfléchis trop. Et comme on dit dans l'armée, réfléchir, c'est désobéir.
Et aujourd'hui, aujourd'hui tu la vois comment, cette phrase ?
Je suis fière d'être désobéissante.
Ta réussite aujourd'hui, c'est quoi ?
Je dirais la liberté. C'est la liberté, c'est la... Et le fait d'être libre, et du coup de ne plus avoir peur. Pour moi, c'est ça, parce que du coup, j'ai réussi à me détacher de la peur de l'échec, de la peur de manquer, de la peur de la mort, de la peur de que les choses s'arrêtent. En fait, je me suis complètement détachée de tout ça, et du coup, bah, je vis au jour le jour, et du coup, je suis libre.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De finir dans un ashram en train de fumer des grosses bulles avec ta vision sur la vie, ton corps te dira merci.
C'est ça. Non, ce qu'on peut me souhaiter, une vie douce.
Oh, c'est bateau.
Et pourtant, c'est simple, mais je pense que c'est essentiel.
Merci Mélanie. Pour conclure un peu ce que disait Mélanie, je vais revenir sur une phrase de Ben Mazoué, qui, enfin sur une partie du texte de Ben Mazoué dans sa chanson « Quand je marche » où il parle de ses enfants, où il dit « À quoi sert vraiment l'exigence ? Pourquoi on souhaite être excellent ? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent, moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant, je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. » Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Vie. N'oubliez pas que Vie, c'est vous, parce qu'extraordinaire ou classique, chaque vie mérite d'être racontée. À très vite. Thank you.